France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, quel État palestinien faudrait-il reconnaître? Et Madagascar, Haïti, Algérie, la France peut-elle faire la paix avec son passé colonial? Et nos débatteurs ce dimanche, Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
Historien, directeur de l'IFRI, votre dernier livre, L'accélération de l'histoire, c'est aux éditions Talendier. Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Consultant en affaires européennes, enseignant à l'ECP Business School et au corps des mines. François Jemaine, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste migration et climat, vous êtes le président du conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme. Et Anne-Lorraine Bujon, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la rédaction de la revue Esprit, le dernier numéro, l'IA aux frontières de l'esprit, justement. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, nous évoquerons le projet d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État palestinien, possiblement au mois de juin. Mais quel État reconnaître, dans quelles frontières, avec quels dirigeants, nous en débattrons. Et pour commencer, direction Madagascar, une des étapes du voyage du président français cette semaine, accueilli par son homologue Andry Rajoelina, dans ce qui fut autrefois une colonie française.
Monsieur le Président, vous êtes le cinquième président français a visité Madagascar et le deuxième a effectué une visite d'État dans notre grande île. Cela marque votre volonté et engagement personnel à renforcer les liens d'amitié entre Madagascar et la France et d'accompagner les projets de transformation et de développement de Madagascar.
Trois territoires, trois anciennes colonies françaises, trois cas d'école sur la façon d'aborder et d'absorber le passé colonial entre volonté d'apaisement et refus d'obstacles. Madagascar d'abord donc, une des plus grandes îles du monde, un des pays les plus pauvres, indépendante depuis 1960. Emmanuel Macron s'y est rendu cette semaine dans le cadre d'une tournée dans l'océan Indien. Pour les Malgaches, l'occasion de remettre sur la table un vieux différend territorial, héritage de la décolonisation. Les îles éparses, quelques confettis disséminés dans le canal du Mozambique pour une surface de 43 km². C'est si petit qu'on ne comprend pas bien pourquoi la France refuse de rendre ses territoires à Madagascar. Sauf que si, on comprend, ces îles du bout du monde permettent à l'ancienne puissance coloniale de disposer de 640 000 km² d'eau territoriale et de zones économiques exclusives, atout majeur dans la bataille pour le commerce mondial. Autre île dans les Caraïbes, cette fois, Saint-Domingue, plus précisément sa partie ouest, Haïti. Le 17 avril 1825, le roi de France, Charles X, acte l'indépendance de la jeune République haïtienne. En échange et sous la menace, il impose à Haïti le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs or afin de dédommager les anciens colons esclavagistes. Depuis quelques années, les Haïtiens réclament le remboursement de tout ou partie des sommes versées, financées par la dette contractée auprès de banques françaises, une rançon, disent-ils, qui a empêché le pays de se développer. Emmanuel Macron vient justement d'en reconnaître les effets et d'annoncer la création d'une commission d'historiens sur le sujet. Et c'est lui encore, lorsqu'il n'était pas encore président, qui avait depuis Alger parlé de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité. Récemment, un éditorialiste politique, Jean-Michel Apathy, a fait un parallèle entre les crimes commis par la France coloniale en Algérie et le massacre d'Oradour-sur-Glane par les nazis. Parallèle qui a choqué et surpris dans un pays, la France, qui semble avoir quelques lacunes sur son histoire coloniale. Alors, s'agit-il d'un obstacle pour faire la paix avec le passé? C'est ce dont nous allons discuter dans la prochaine demi-heure. Je voudrais qu'on commence avec vous, Thomas Gomard, et peut-être donc parler de ce voyage donc du président Macron à Madagascar, avec cette question des îles éparses, alors qui n'a pas été directement abordée lors de ce voyage. Il y a une réunion qui est prévue fin juin entre le président malgache et le président français autour de ce sujet. En quoi est-ce que c'est une question importante, et pour Madagascar, et pour la France, d'un point de vue strictement stratégique, même si, comme je le disais, ces petits confettis ne représentent pas une surface en soi très importante?
Non, mais ce sont les eaux territoriales qui sont associées effectivement à ces îles qui ont une valeur géopolitique et géoéconomique parce que ça se situe dans le canal du Mozambique et que c'est une des artères du commerce mondial et également le fait qu'il y a eu des découvertes très importantes de gaz au Mozambique dont l'exploitation d'ailleurs engendre des conséquences très très profondes pour certaines régions du Mozambique. Au-delà de la situation des îles éparses, il faut évoquer, à mon avis, deux choses. D'abord, Dans les îles éparses, il y en a une qui est importante, c'est l'île Glorieuse, qui a été aussi, qui fait l'objet d'une sorte de réserve pour conserver la biodiversité. C'est en fait un peu le moyen utilisé par la France pour justifier sa présence et son maintien. Et je crois qu'il y a une deuxième chose à rappeler, c'est la situation de l'île de Diego Garcia, qui était un territoire britannique. Et qui a été là aussi a fait l'objet de la part de l'île Maurice de revendications. Il y a eu toute une histoire très difficile là aussi concernant Diego Garcia qui a été racontée par Philip Sands dans un livre qui s'appelle La dernière colonie et qui montre au fond la volonté de ces pays, Madagascar en l'espèce ou la Mauritanie pour Diego Garcia d'être présent. L'île Maurice, excusez-moi, oui. L'île Maurice absolument, d'être présent et de au fond bénéficier de leur environnement. Moi, je crois que c'est très important de replacer ça peut-être dans un cadre plus général, c'est-à-dire que avec Emmanuel Macron, on peut lire ce qui se passe avec Madagascar, Haïti et l'Algérie, à la fois, je dirais, en historien et puis en spécialiste des relations internationales. Si je lis les choses en historien, évidemment, il y a tout un travail à faire de mémoire, et le président de la République, d'une certaine manière, d'ailleurs, aime beaucoup cet exercice. Je pense à ce qu'il a fait sur le Rwanda. Là, il lance une nouvelle commission mixte d'historiens. C'est probablement lié à sa filiation intellectuelle avec Paul Ricoeur. Enfin, on pourrait revenir sur cet aspect-là. Et ça vient aussi, tout ce travail de mémoire vient aussi avec, je mentionne le livre de Philip Sands, il faudrait mentionner le livre de Thomas Piketty sur Capital et idéologie sur Haïti, qui a été le premier à montrer de manière extrêmement détaillée effectivement le poids de cette double dette. Après, ça avait été très relayé par le New York Times. Il y a donc tout un courant historiographique qui se retrouve dans l'université pour ce qu'on appelle les études postcoloniales. Donc, tout ça, à mon avis, est parfaitement nécessaire, c'est-à-dire la capacité pour un pays comme le nôtre de regarder son histoire dans tous ses plis et tous ses replis, c'est-à-dire ce qui est à la fois lumineux et de ce qui est également d'extrêmement obscur et sombre. Et puis, il y a un autre aspect, et c'est là c'est plus ce spécialiste de relations internationales qui va parler, qui est cet effort en fait de mémoire par rapport à un passé colonial. On le demande beaucoup aux Français, aux Britanniques et beaucoup moins à d'autres pays coloniaux. Et ça me frappe beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a aussi une instrumentalisation de cet héritage colonial au détriment de la France et du Royaume-Uni.
Je pense par exemple à
la Russie, ou je pense par exemple à l'Azerbaïdjan qui a mené des opérations sur ce thème-là, notamment en Nouvelle-Calédonie, tout en étant dans une position de conquête vis-à-vis de l'Arménie. Et quant à la Russie, elle utilise de manière très pensée et très adroite d'ailleurs cet héritage colonial dans sa volonté de reprendre pied en Afrique subsaharienne. Et donc je pense qu'il faut à la fois être capable de voir les choses sur un plan intellectuel, mais également ne pas être complètement naïf sur les implications que ça a sur un plan géopolitique.
Qui ça peut servir effectivement le fait de devoir rappeler à un pays comme la France son passé colonial. Dans ce voyage à Madagascar, à Lorraine Bujon, il y a aussi eu alors un autre aspect de ce passé qui a été évoqué, la restitution d'œuvres et notamment d'œuvres qui sont actuellement conservées au Musée de l'Homme, sont des crânes, notamment le crâne d'un roi. Et à ce sujet, Emmanuel Macron, c'est là-dessus que je voudrais vous entendre, il a dit jeudi vouloir créer les conditions du pardon pour la colonisation de l'île Cré. Les conditions du pardon, ça vous inspire quoi cette formule ?
Mais c'est assez ambivalent parce que cette diplomatie mémorielle, en fait, on l'a appelée parfois comme ça, c'est une des signatures en fait des deux mandats hein, du président Macron. Ça avait commencé en 2017 et moi, ça me semble assez largement bienvenu pour toutes les raisons qu'avait indiqué Thomas. C'est vrai qu'il y avait une première étape autour de la Grande Guerre, donc l'itinérance mémorielle, et puis très vite, on était passé à ce rapport Savoie-Sarre. Sur la restitution des œuvres d'art et des restes humains, et c'était quelque chose auquel les historiens et les conservateurs réfléchissaient depuis longtemps, en lien avec leurs homologues dans les pays justement d'où ces œuvres d'art ont été confisquées ou spoliées, ou les restes humains rapatriés dans des conditions qui ne sont pas acceptables aujourd'hui. Et donc on voit cette volonté de restituer les œuvres, les restes humains et la portée symbolique que ça peut avoir. En général, ça donne lieu à des grandes cérémonies et effectivement au fait de reconnaître des errements, des erreurs, voire des crimes. Mais on se demande toujours à qui on s'adresse en réalité quand on fait cela. Et il me semble qu'on s'adresse à la fois à la population française, et ça c'est très important, parce que moi je fais partie de cette génération en fait qui a appris une histoire à la fois très marquée par l'histoire des deux grandes guerres mondiales, mais aussi c'était vraiment l'histoire de la France de la métropole. Et donc en fait j'ai appris très peu de choses sur l'histoire de l'Empire, sur l'histoire des anciennes colonies, et ça c'est en décalage total avec la réalité de la population française aujourd'hui. Donc il faut pouvoir raconter l'histoire de tous les Français. Et donc, je crois qu'il faut aussi pouvoir faire ces gestes de reconnaissance des crimes du passé, qui sont des gestes d'apaisement des mémoires nationales. Mais on s'adresse aussi aux populations là-bas, et on s'adresse aussi à des chefs d'État dans ce contexte géopolitique compliqué.
Est-ce que d'ailleurs on peut voir un paradoxe, Anne-Lorraine Bujon, dans le fait justement d'avoir des représentants, disons en tout cas des descendants des anciennes colonies qui sont encore très présents dans la population française aujourd'hui, et le fait qu'on n'apprenne pas tellement ce qui s'est passé dans le passé colonial, ou bien est-ce que c'est un élément d'explication justement cette présence importante ?
En tout cas, pour moi, ça milite totalement pour apprendre cette histoire de toute la France et de tous les Français, donc qui va bien au-delà, comme je le disais, de la métropole. Et je pense que c'est attendu en France et par les Français. Après, est-ce qu'on va jusqu'à demander pardon ? C'est toujours la grande question diplomatique. Donc, il y a ces commissions mixtes d'historiens. Donc, on a mentionné celle du Rwanda, mais il y a aussi eu celle de l'Algérie. Et donc, maintenant, on va en avoir une sur Haïti et une sur Madagascar. Et c'est évidemment très important de faire la lumière sur toute cette histoire. Ensuite, est-ce qu'on va jusqu'à demander pardon, et donc dans des cérémonies officielles et à des États qui sont souvent des États peu recommandables, et parce qu'ils ils instrumentalisent eux aussi de leur côté cette mémoire coloniale, c'est là que ça devient très difficile. Et on a pu dire pour l'Algérie, mais c'était vrai aussi pour le Rwanda, qu'il faut être deux pour danser le tango. Et donc quand la France fait ces gestes de demander pardon, quand elle va juste que là, pour des crimes du passé, encore faut-il qu'en face, il y ait un État ou des représentants officiels qui soient dans les mêmes dispositions d'esprit de vouloir dépasser ce passé colonial.
Yves Bertoncini, sur la question d'Haïti, par exemple, donc il y a cette histoire de la dette, enfin de la double dette, c'est-à-dire d'abord une somme demandée en 1825 pour, en échange de l'indépendance de la République haïtienne, des dédommagements pour les anciens colons, et comme Haïti n'avait pas la somme pour rembourser ce qui était demandé, elle a contracté donc une dette auprès de banques françaises, et elle a payé pendant de très longues années les intérêts de la dette. Et aujourd'hui, les Haïtiens considèrent que une grande partie de leurs difficultés sont liées aussi à cette histoire. Est-ce que ça peut pas être aussi parfois une aubaine pour certains pays que de mettre la responsabilité de leurs difficultés actuelles sur l'histoire coloniale plutôt que d'assumer aussi sans doute des erreurs politiques qui ont été faites depuis que ces pays sont indépendants ?
Oui, mais très certainement qu'il y a une instrumentalisation par les classes dirigeantes des pays concernés, y compris 200 ans après ce que nous avons infligé à Haïti, c'est-à-dire cette double dette, bien sûr. Ce qui est en jeu, il faut quand même le dire, c'est aujourd'hui. Ce sont les défis d'aujourd'hui. Thomas Gobard en a parlé, un monde dont nous ne sommes plus le centre, nous la France, nous les Européens, où nous avons des concurrents qui d'ailleurs eux aussi instrumentalisent notre passé colonial. Et pour que nous établissions, parce que c'est nos intérêts aujourd'hui, hein, les îles éparses ont été mentionnées, l'Algérie, on y reviendra peut-être, les Antilles, hein, Haïti, des relations de coopération, c'est dans notre intérêt avec ces pays-là, il faut purger le passé. Le passé qui ne passe pas.
Vous dites. Non, purge comment ? C'est-à-dire en demandant pardon ? Alors, en donnant des réparations et des réparations financières ?
Vous dites, c'est les classes dirigeantes de ces pays, est-ce qu'ils n'en profitent pas ? Oui, peut-être. Mais enfin, bon, regardons les choses dans l'histoire longue. Ce que la France a infligé à Haïti, c'est quand même assez hallucinant, cette dette qu'il a fallu payer. C'est quand même une dette qu'ont dû payer des descendants d'esclaves à leur mettre négrier. C'est ça que ça voulait dire. On a indemnisé, on a forcé Haïti, à coup de canonnière, à indemniser les esclavagistes. Et c'est ce qui complique la situation en Haïti, parce qu'il y a l'esclavage au-dessus de la colonisation stricto sensu. Et donc, que la France puisse regarder cette réalité en face, ça me paraît de bon aloi. J'avoue tout à fait benoîtement, et je suis comme Anne-Lorraine, que ça m'avait échappé hein, dans mes cours d'histoire, tout ça. J'étais peut-être inattentif, je sais pas, mais ensuite, j'ai comme été un étudiant plus assidu. Moi, je trouve que voilà, ce qui est fascinant, c'est qu'on ne connaît pas notre histoire coloniale, nous les Français. J'ai découvert en Madagascar certains crimes français parce que j'y ai voyagé. Gallieni, qui est honoré dans ma ville de Boulogne-Billancourt, bah oui, la pacification de Madagascar, il l'a commis, ce sont des boucheries, hein, quand même son nom. Bon, j'ai eu la chance de travailler à l'ambassade de France à Alger, et donc là, j'ai découvert aussi l'ensemble de des versants de la colonisation française en Algérie, y compris les plus criminels. Bon, sur Haïti, je n'en savais rien. Et donc, reconnaître, ça passe par connaître. Et donc, je crois que le travail que fait Emmanuel Macron est utile de ce point de vue-là, parce qu'il y a des discours officiels, des actes officiels. Il y a aussi l'enseignement de l'histoire qu'il faut revoir dans notre pays. Et puis aussi, le débat public, nous y contribuons. Il ne s'agit pas de faire acte de repentance, il s'agit juste... Je voudrais terminer là-dessus, de se distancer tout de même de ce qu'a fait la France il y a 200 ans. Charles X, oui, c'était la France à l'époque, mais enfin, c'était un monarque, c'était pas une démocratie, la France. Est-ce qu'on peut pas, tout en aimant la France, tout en ayant une certaine idée de la France, se distancer de Charles X et dire que bah, voilà, tout ça n'était pas correct et que ça demande reconnaissance et sans doute réparation. Victor Schœlcher a contribuer à l'abolition définitive de l'esclavage en 1848. Mais ça, c'était la République, c'était plus la monarchie. La Deuxième République, la Troisième République a mis Victor Schœlcher au Panthéon. Ça, c'était un siècle plus tard. Voilà, ben moi, je me reconnais dans cette France-ci. Et si on se reconnaît dans la France républicaine, tout en aimant passionnément la France, ben, il faut aussi admettre, reconnaître, parce que c'est dans notre intérêt actuel, les crimes commis, les réparer au moins symboliquement et peut-être parfois financièrement, pour avoir des relations de coopération avec Haïti, Madagascar, l'Algérie et bien d'autres pays.
François Jomène, je mentionne régulièrement le fait que vous avez aussi la nationalité belge. Et sur cette question, c'est important...
Exclusivement c'est la nationalité belge.
C'est important d'avoir votre avis, puisque alors, la Belgique a aussi été un pays colonial avec le Congo belge. Est-ce que vous avez l'impression que, en vivant alors aujourd'hui en France, que les Belges sont davantage au courant de leur histoire coloniale que ne le sont les Français ?
Sans doute un peu, même s'il y a en Belgique, il y a aussi une histoire coloniale très compliquée et très douloureuse, même s'il y a aussi des lacunes dans l'enseignement de cette période au collège et au lycée. Néanmoins, la Belgique est allée plus loin que la France dans la reconnaissance de sa responsabilité, dans les excuses officielles qui ont été formulées à la fois d'abord par le monarque, puis par le Premier ministre, dans la restitution des œuvres d'art dont on discutait. Ça, c'est un processus qui est engagé depuis déjà plusieurs années et qui se poursuit. Et donc, il y a un travail de mémoire qui n'est pas achevé, mais qui au moins a commencé, qui je dirais est plus avancé, je crois, qu'en France. Et cela étant dit, ça n'est pas achevé non plus, et je crois que c'est vraiment une étape très importante dans ce qui est une sorte de normalisation de relations entre deux pays. On voit bien, notamment en France, un peu le courant aujourd'hui qui dit il faut pas s'excuser, il faut arrêter de se flageller en permanence, il faut arrêter la repentance, etc. Alors bien entendu, on ne peut pas tenir les Français des générations actuelles responsables des actions commises par leurs aînés, mais de la même manière, on ne peut pas imposer aux citoyens actuels de Madagascar, d'Haïti ou d'autres anciennes colonies de continuer à payer en permanence cette dette qui était contractée de façon injuste par leurs aînés. Et donc, je pense qu'il y a un processus de normalisation important qui doit se faire, qui passe effectivement par des excuses ou par au moins la reconnaissance officielle des crimes et des atrocités qui ont été commises pendant la période coloniale. Et il suffit de voir le nombre de noms de rues, de boulevards ou d'écoles qui sont encore... On a parlé de Gallieni tout à l'heure. On pourrait citer Bugeaud, le tortionnaire d'Algérie, qui porte encore énormément de rues à son nom. Il y a, je crois, ce travail de mémoire qu'il faut pouvoir faire sans une sorte de flagellation et de repentance, mais en regardant objectivement la situation. Et je pense que c'est une étape nécessaire pour permettre aux relations bilatérales avec ces pays de progresser sur des bases beaucoup plus saines. Et puis, il faudra régler définitivement la question de la dette.
Et ça passe par quoi? Par les livres d'histoire?
Ça passe... Alors, la dette...
Ça
passe par les livres d'histoire, ça passe aussi par des actions lors de visites bilatérales, lors de discours, et je pense, oui, il faut le dire, d'excuses officielles qui doivent être formulées à certains moments, de restitution d'œuvres d'art ou de biens spoliés, c'est aussi important. Et puis, il faut absolument trouver un cadre d'abolition de cette dette. C'est un processus qui a été lancé, et d'ailleurs que la France soutient, qui a été lancé par les Barbades dans le cadre de la réforme du système financier international. C'est aussi un sujet, si vous voulez, je vous raconte l'histoire parce qu'elle est intéressante, qui a été abordé dans le cadre des négociations sur le climat, paradoxalement. Vous savez que les pays du Sud réclament aux pays industrialisés le paiement d'une dette pour les dommages liés au changement climatique, c'est ce qu'on appelle les pertes et dommages. Et lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh en 2022, précisément, on s'accorde sur le principe de réparation de pays industrialisés envers les pays du Sud pour les dommages climatiques. Et dans la dernière nuit de négociation, vers 3h du matin, le problème évidemment c'est qu'on s'accorde sur le principe politique, mais qu'il n'y a pas d'argent. Et donc, à ce moment-là, Frans Timmermans, qui est le vice-président de la Commission européenne en charge du Green Deal à ce moment-là, met sur la table une idée complètement iconoclaste et il dit « Pourquoi est-ce qu'on n'échangerait pas les dettes ?» Les pays du Sud, vous avez une dette envers les anciennes puissances coloniales européennes qui vous plombent. Nous, Européens et globalement pays industrialisés, nous avons une dette envers vous pour les dommages du changement climatique. Pourquoi est-ce qu'on n'annule pas les deux dettes ? Et donc, d'un coup, au milieu d'une nuit de négociation, on a failli trouver une solution à ce problème, et les pays du Sud ne semblaient pas contre, sauf la Chine. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la dette des pays du Sud, elle est détenue par la Chine à hauteur d'un tiers. Et la Chine a dit, écoutez, je veux bien reconnaître une certaine forme de responsabilité dans les dommages liés au changement climatique, mais pas à hauteur d'un tiers.
Donc il y a peut-être voilà, des exemples de quoi s'inspirer dans d'autres domaines que celui directement du passé colonial. Thomas Gomard, si la France semble avoir quand même du mal à manier ce passé. On se souvient, il y a 20 ans, d'ailleurs, c'était pile il y a 20 ans, la loi du 23 février en faveur des rapatriés et des harkis qui stipulait, je ne sais pas si vous en souvenez tous, mais que les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. Ça avait créé pas mal de polémiques, justement, sur les effets positifs de la colonisation. Si donc la France semble avoir du mal avec son passé colonial, est-ce que ça n'est pas aussi peut-être parce que la France serait encore un pays colonial? C'est la question assez provocatrice, mais que pose le 1 l'hebdo cette semaine. Thomas Gomard.
Ouais. Oui, c'est aussi les travaux de Gilles Déa sur l'esprit impérial, cette idée au fond que après la vague de décolonisation, d'autres mécanismes, notamment financiers, ont été mis en place pour maintenir une situation de colonisation plus invisible, on va dire. Bon. Moi, je pense que la difficulté dans laquelle on est, c'est qu'il y a la réalité intellectuelle et partagée autour de cette table de faire ce travail et d'avoir effectivement un président de la République qui est allé très loin. En la matière, moi je pense pas du tout que ça va se traduire par une sorte de repentance systématique et de présenter des excuses. Et puis il y a la réalité politique de la France aujourd'hui, dont la principale force politique est le Rassemblement National. Et on sent bien que plus ces thèmes sont abordés, je dirais, par la sphère intellectuelle, universitaire, telle qu'elle a évolué, plus ça braque une partie de la population française qui, à tort ou à raison, peut-être parce que l'enseignement n'a pas été suffisamment fait, mais considère que c'est désormais sa propre position qui est remise en cause. Et donc je pense que dans le travail qu'il faut faire, il faut bien distinguer ce qui relève du travail d'historien, plus d'ailleurs que de mémoire. C'est-à-dire que le principe de fabrication de l'histoire, c'est qu'il est toujours très lié au contexte dans lequel on le fait. Et on voit bien que ces questions-là, Anne-Lorraine le mentionnait à juste titre, elles apparaissent parce que la société française a évolué de telle manière qu'effectivement, il faut pouvoir s'adresser à tous ses membres d'une certaine manière. Emmanuel de Varesquel, dans son dernier livre, a une introduction là-dessus, où il explique qu'effectivement, dans une société mixte et brassée, eh bien, on fait beaucoup plus d'histoires circulaires, on s'intéresse beaucoup plus aux influences extérieures que la génération précédente. Donc moi, je prendrai garde au point suivant. D'abord, de rappeler que c'est des demandes, un travail qui a été fait après des demandes et qui, à mon avis, est fait très sérieusement par la France, dans une moindre mesure peut-être par le Royaume-Uni, on pourrait y revenir. Mais je reviens sur mon point précédent. Il faudrait à ce moment-là que, si on est dans une logique plus large, il faudrait que les pays arabes aussi se prononcent sur la traite négrière. Il faudrait que la Chine se prononce sur les Ouïghours, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un peu l'impression de pays européens, France et Grande-Bretagne, mis sur la sellette, qui ont des responsabilités historiques évidentes. C'est pas le point. Le point, c'est plutôt l'utilisation qui en est faite et la manière dont ils arrivent à traiter ça suffisamment intelligemment sur le plan intellectuel et politique pour ne pas que ça se retourne dans les urnes.
Anne-Lorraine Bugeron.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce point et je pense que justement aujourd'hui, et pour rebondir sur cette idée qu'on est dans une époque où on a affaire à un impérialisme totalement décomplexé de la part de la Russie, de la Turquie ou de la Chine, parce que tous les spécialistes de la question ouïghour disent de plus en plus, et maintenant des États-Unis. Donc les Ouïghours, c'est une question coloniale, enfin c'est comme ça en tout cas que les spécialistes du sujet le présentent. Et donc maintenant on a les États-Unis qui s'ajoutent à ces puissances impérialistes décomplexées. Et donc, il me semble que si c'est fait avec subtilité et intelligence et mesure, c'est justement différenciant. Enfin, c'est justement pour le soft power européen d'assumer que nous sommes des puissances post-coloniales. Et nous sommes porteurs de discours, de convictions sur le droit de l'homme, sur l'autodétermination des peuples. Ce sont aussi des arguments, ça, sur la scène internationale aujourd'hui, et des arguments qui pèsent. Et alors, moi, donc, je suis retournée voir dans la revue Esprit a une longue histoire de liens avec les intellectuels anticoloniaux. Et donc, en fait, je suis retournée voir ce qu'on trouve sur la fameuse insurrection de 47 à Madagascar. Et il y a énormément de textes très intéressants dans les pages de la revue sur ce qui se passait à Madagascar. Donc, en 48, notamment, un dossier entier. Et ce qu'on voit là, c'est que sur le plan intellectuel, ce qui se joue, c'est des liens entre des résistants, des combattants qui ont combattu les nazis côte à côte pendant la Seconde Guerre mondiale et qui veulent construire à ce moment-là l'Union française. Et puis ça n'a pas duré très longtemps, mais on sait que ça mènera aussi à la construction européenne. Et si vous voulez, qui puisent des principes d'une très grande vitalité et d'une très grande force, en fait, dans ces luttes anticoloniales, de respect de toutes les personnes, de respect de tous les peuples et de leur droit à l'autodétermination. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui me semble fort et qui me semble peut-être pouvoir être opératoire aujourd'hui dans le besoin aussi de nouer des alliances avec d'autres pays autour de nous qui ne sont justement ni la Russie, ni la Turquie, ni les États-Unis.
Sauf que ça, on l'a peut-être oublié justement. Ces luttes que vous évoquez, voilà, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a été transmis suffisamment pour qu'aujourd'hui on en ait une connaissance assez fine.
Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'y retourner, non seulement aux faits et à l'histoire de ce qui s'est passé à l'époque, mais aussi au débat public de l'époque, en fait. Et on sait qu'on est aussi en train de redécouvrir la prose et les textes de très grands intellectuels anticoloniaux. Et je pense qu'il y a dans ces œuvres des arguments pour faire des relations internationales autrement aujourd'hui.
Et Bertrand Signy ?
Je crois que c'est bon, on est au carrefour de l'histoire et de la géographie, ou même de la géopolitique. Qu'est-ce qui reste du colonialisme français? Ben d'abord, il reste des confettis, hein, les confettis de l'Empire, les îles éparses. Oui, ben effectivement, Madagascar peut en revendiquer au moins une. Il y a toute la pression qui est mise sur les Mayotte et les Comores aussi, la Nouvelle-Calédonie récemment. Bon, il y a des façons de régler ces choses-là aussi. Hein. Il y a un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il y a eu des référendums, les populations veulent rester françaises. Voilà, c'est une réponse à nos concurrents, à à ceux qui veulent nous déstabiliser. Et je dirais à la nécessité de défendre nos intérêts géographiques et géopolitiques. Avec les pays tiers, c'est différent. Les pays tiers qu'on a mentionnés, Haïti, Algérie, Madagascar, il faut qu'on sorte effectivement d'une forme de mentalité coloniale. Nous avons besoin de ces pays, en fait. Nous avons besoin d'avoir des bonnes relations de coopération avec Haïti dans les Antilles, où il y a des départements d'outre-mer. Nous avons besoin d'avoir des bonnes relations avec Madagascar, parce que, effectivement, le canal du Mozambique est un lieu stratégique. Quand on peut pas passer par le canal de Suez, ben on contourne l'Afrique et on passe dans le canal du Mozambique. Nous avons besoin d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie, notamment pour des enjeux sécuritaires, sécurité évidemment, terrorisme islamiste, la reconduite des OQTF qui est trop basse, la sécurité énergétique également. Nous en avons besoin et c'est parce que nous en avons besoin qu'il faut purger le passé, mieux vivre avec notre passé, être dans une logique coopérative avec eux. Il n'y a que ça qu'on puisse faire. Je suis d'accord qu'il faudrait que les pays arabes reconnaissent la traite négrière aussi, qui était épouvantable. Quand on va à Zanzibar, on en voit les traces. La Chine, la Russie, que sais-je encore. Ce que nous pouvons faire, nous, Français, nous, Européens, c'est faire ce qui nous concerne, hein, c'est-à-dire purger ce passé colonial, y compris dans nos mentalités, et s'engager avec des États qui ont leur dignité aussi, leur intérêt, en reconnaissant ce qu'ils sont, et en faisant des gestes. Et je termine, hein, quand on a parlé d'œuvres d'art restituées à Madagascar, c'est quand même la tête d'un roi qu'on a coupé, qu'on est en train de rendre à Madagascar. C'est pas seulement une œuvre d'art, c'est quand même le signe d'une barbarie sans nom qui nous a fait couper cette tête, l'emmener dans nos musées, et qu'enfin, effectivement, on va restituer à Madagascar. La France ne va pas mourir de ça, mais ce sont des gestes qu'il faut absolument accomplir pour entrer dans une nouvelle logique et un nouveau monde.
Et donc une façon peut-être justement de régler, en tout cas d'avancer sur ces questions, François Jemaine, ça peut être de ne pas seulement placer cette question du passé colonial sur des valeurs sur les principes et sur des valeurs morales, mais de penser notre intérêt de manière peut-être un peu plus cynique, mais c'est comme ça que ça peut avancer.
Enfin, il y a un enjeu de réel politique, là aussi, sur ce sujet. On voit bien qu'avec la rupture des alliances passées, il va aussi falloir que la France et plus globalement l'Europe noue des alliances avec d'autres pays et certainement des pays du Sud. Et je pense que tant que ce passé colonial ne sera pas soldé, ça va être difficile d'entrer dans un rapport de confiance, même pas avec ces pays eux-mêmes, mais potentiellement avec leurs voisins qui vont se dire « Ben regardez ce que la France a fait ici, ce que la Grande-Bretagne a fait là-bas, ce que l'Italie a fait là-bas ». Et donc je crois que c'est en réalité dans l'intérêt de l'Union européenne globalement aujourd'hui de repenser fondamentalement sa relation avec les pays du Sud, parce que les alliances sur lesquelles elle s'appuyait, eh bien, ont volé en éclats, on le voit bien. Alors bien sûr, il faudrait que la Chine reconnaisse sa responsabilité pour les Ouïghours, que les pays arabes reconnaissent aussi leur responsabilité dans l'esclavagisme. Mais j'ai envie de dire, n'attendons pas que les autres le fassent, faisons-le aussi dans notre propre intérêt, parce que les relations internationales du 21e siècle seront très différentes de ce qu'elles ont été après la Seconde Guerre mondiale.
Il est 11h31 sur France Culture. On va voir s'il s'agit là encore de réel politique, à savoir la possible reconnaissance par la France d'un État palestinien. C'est ce dont parlait il y a quelques jours le président français Emmanuel Macron.
France Culture. L'esprit public. Hervé Gardette.
On doit aller vers une reconnaissance. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel. Je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné, ce sera juste. Et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas. Notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs.
En mai 2024, il y a presque un an, Emmanuel Macron déclarait que la France était prête, sur le principe, à reconnaître un État palestinien, mais pas tout de suite, à un moment utile, ajoutait le président français, pas sous le coup de l'émotion. On était alors à un peu plus de 6 mois des attaques du 7 octobre et du début de la riposte militaire israélienne sur Gaza. Depuis, du sang a coulé sous les bombes, l'émotion n'a pas disparu, mais le moment utile est peut-être advenu. Confidence d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, donc à la télévision, vous venez de l'entendre, la France pourrait reconnaître l'État palestinien au mois de juin, à l'occasion d'une conférence des Nations Unies consacrée à cette question. Si tel était le cas, elle deviendrait le 149e pays à franchir le pas, quelques mois après d'autres Européens comme l'Irlande, la Norvège, l'Espagne ou la Slovénie. Alors pourquoi maintenant ? parce que le conflit s'enlise et parce que le pouvoir a changé aux États-Unis avec lui la façon de faire de la politique au Proche-Orient. Alors certes, Joe Biden ne brillait pas par ses initiatives, mais du moins restait-il dans les clous de la diplomatie traditionnelle. Donald Trump lui encourage l'annexion de cette bande de terre par Israël et continue de défendre son projet de Gaza Riviera. Une reconnaissance plus large qu'elle ne l'est aujourd'hui de l'État palestinien pourrait-elle freiner un tel projet et encourager dans un deuxième temps une résolution du conflit israélo-palestinien avec la fameuse solution à deux États? Eh bien, une telle hypothèse ouvre autant de questions qu'elle n'en résout. Car comment reconnaître un État d'abord qui n'existe pas encore? Au-delà de la portée symbolique, quelle serait sa raison d'être juridique? Et à l'intérieur de quelles frontières? Par ailleurs, un État, c'est une autorité politique avec des représentants. Qui pour l'incarner? Le Hamas? Impossible. Le Fatah? Tout sauf en position de force. Enfin, cette reconnaissance de l'État palestinien ne doit-elle pas s'accompagner d'une reconnaissance de l'État d'Israël par des pays de la région comme l'Arabie Saoudite, la Syrie ou encore le Liban? Et la France a-t-elle un rôle à jouer? C'est la question dont nous débattons à présent avec toujours Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes, François Gemène, spécialiste migration et climat et Anne-Lorraine Bujon, directrice de la revue Esprit. Cette question de l'État palestinien et de la reconnaissance par la France, on en avait discuté il y a un an. Vous étiez déjà là, Anne-Lorraine Bujon et Thomas Gomard. Et on était donc partis sur cette idée que, enfin en tout cas le président Macron, que le moment utile n'était pas encore advenu. Est-ce que un an après, ce moment utile, il est présent?
Alors c'est vrai qu'on est un peu troublé. Que cette question revienne maintenant. On se dit est-ce que ce n'est pas trop peu et trop tard pour le coup? Est-ce qu'on n'a pas laissé passer le moment utile? La question s'était posée au printemps dernier parce qu'un certain nombre d'autres pays européens avaient décidé à ce moment-là de reconnaître l'État palestinien avec toutes les difficultés que vous indiquez qui étaient déjà là à l'époque. Quel territoire? Quelle structure politique? Et à ce moment-là, donc, la France avait jugé que ça n'était pas utile. La question s'est reposée, je crois, en janvier 2025, quand on a eu cette perspective de cesser le feu, où de nouveau, il était possible de demander quel était l'horizon politique dans lequel on pouvait inscrire ce conflit interminable, et de demander donc, est-ce qu'on peut reprendre un processus de paix? Est-ce qu'on peut reprendre des négociations régionales? Est-ce qu'on peut à nouveau prôner la solution à deux États? Et je suis retournée lire les textes en janvier qui sont pleins d'espoir. Donc oui, il faut reconnaître l'État palestinien dans ses frontières de 1967. Oui, il faut libérer les prisonniers politiques et notamment Marwan Barghouti qui pourrait prendre la tête d'une autorité palestinienne refondée, renouvelée. Et donc bien sûr que c'est symbolique, que ça ne résout pas tous les problèmes, mais au moins cette déclaration symbolique, il faut la faire. Alors aujourd'hui,
mais il faut la faire pourquoi? C'est-à-dire ça change quoi de la faire si ça n'est que du symbole?
Alors c'est toujours la même question. C'est pas le symbole, c'est fort. Le symbole, c'est important. Et donc là, je dis, en fait, devant la politique du fait accompli, on se dit, mais il n'y a plus d'État palestinien à sauver. Il n'y a plus d'État palestinien possible à reconnaître. Il n'y a plus de solution à deux États. Sauf que, quelle est l'alternative alors? Ne rien faire, rester devant ce désastre, ne rien dire, ne rien demander, ne rien essayer d'initier. Donc je crois qu'on n'a pas le choix. Je crois qu'il faut essayer de faire quelque chose. Donc même si on a ce décalage entre la politique du fait accompli, les réalités de terrain et le discours diplomatique, le symbole me paraît important. Mais surtout, je crois parce que le président Macron le présente comme une initiative franco-arabe, une initiative collective dans la région, que donc là, cette perspective de reconnaissance d'un État palestinien, ça s'inscrirait dans un projet de conférence à l'ONU en juin, un peu avant, un peu après, un sommet du G7.
Avec l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire voilà, c'est une conférence voilà qui se ferait en. Je dis pas que l'Arabie Saoudite va reconnaître Israël en échange hein, de cette reconnaissance de l'État palestinien, mais enfin en tout cas l'idée de faire quelque chose ensemble.
Elle a laissé entendre que c'était possible, que donc il y aurait reconnaissance de l'État palestinien d'un côté, reconnaissance de l'État d'Israël par les puissances arabes qui ne l'ont pas encore reconnu. C'est une façon aussi de redonner du poids au plan arabe de reconstruction de Gaza qui se donne comme alternative en fait à cet axe Trump-Netanyahou. qui a entrepris de vider la bande de Gaza de sa population et d'annexer la Cisjordanie. Donc, en fait, on ne peut pas se résigner à l'impuissance devant ce que cet axe Trump-Netanyahou est en train d'accomplir. Donc, même si ça semble peu et difficile, et voilà, je crois qu'il faut le faire, en effet.
Et en même temps, Thomas Gomard, 148 pays l'ont déjà fait, ont reconnu l'État palestinien. On ne voit pas très bien ce que ça a changé pour ce territoire et pour les Palestiniens. Qu'est-ce que ça changerait qu'un 149e pays, la France en l'occurrence, le fasse ?
Je pense qu'au regard de la mobilisation de la diplomatie israélienne pour que ça ne se fasse pas, ça montre aussi l'importance de cette décision. C'est-à-dire que vous avez une diplomatie israélienne aujourd'hui qui se mobilise beaucoup pour contre les propos du président de la République. Vous avez une diplomatie israélienne aussi qui se retrouve à voter avec les États-Unis, la Russie et la Hongrie contre la résolution présentée par l'Ukraine contre sa propre agression en février dernier. Ce qui montre bien la difficulté aujourd'hui et l'isolement d'Israël qui, au fond, bénéficie et surjoue son soutien par les États-Unis. De ce point de vue-là, d'avoir des pays européens comme la France, il y a le cas aussi de l'Allemagne, encore plus spécifique compte tenu de l'histoire, d'avoir un changement de pied de la France, ça serait une défaite diplomatique pour Israël évidente. Alors, c'est embarrassant pour Israël, et la difficulté à prendre cette décision s'explique à mon avis par un certain nombre d'éléments rappelés par Anne-Lorraine. Le premier élément fondamental pour Paris est très embêtant, c'est que pourquoi ça tarde, c'est que l'arrière-plan de cette discussion une éventuelle reconnaissance d'un État palestinien, c'est le dossier iranien. Et Paris est allié avec Tel Aviv sur le dossier iranien, et Paris est contre Tel Aviv quand Tel Aviv détruit Gaza et détruit le droit international en colonisant la Cisjordanie. Donc ça, c'est le premier élément qui, à mon avis, explique beaucoup de ce qui peut être perçu comme une forme d'hésitation, c'est-à-dire l'arrière-plan iranien. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours aussi une très grande prudence en France sur ces questions-là, avec cette hantise ou les formes de ce qu'on appelle l'importation du conflit israélo-palestinien en France, avec les réactions de la communauté juive, dont une partie aujourd'hui se tourne très ouvertement vers le Rassemblement national et de la communauté musulmane. Et puis enfin, je crois effectivement que cette dimension d'une conférence possible avec l'Arabie Saoudite est aussi centrale, parce que la dynamique qui va être reprise par Donald Trump, au-delà de ces discussions actuelles bilatérales avec l'Iran, c'est le prolongement éventuel des accords d'Abraham, qui avait vu la reconnaissance par Israël lors de son précédent mandat, par le Bahreïn, par les Émirats, par le Maroc et le Soudan. Et la question de l'Arabie Saoudite est évidemment la question centrale. Alors, vous avez effectivement été très prudent en disant qu'il n'y avait pas ce possible équilibre entre reconnaissance éventuelle d'un État palestinien et reconnaissance à Israël de l'Arabie Saoudite. Mais il y a une chose qui a beaucoup changé depuis le 7 octobre. D'abord, le 7 octobre a remis sur le devant de la scène internationale la question palestinienne que tout le monde s'était employé à enterrer. Mais surtout, l'Arabie Saoudite, et MBS en particulier, a expliqué qu'il ne pourrait pas progresser dans le sens des accords d'Abraham sans traitement de la question palestinienne.
Est-ce qu'en tout cas, il faut réfléchir de manière parallèle, Yves Bertoncini, c'est-à-dire aller vers une reconnaissance plus large de l'État palestinien, mais tout en exigeant que l'État d'Israël soit aussi reconnu par davantage de pays et par davantage de ses voisins?
Oui, je le crois, et je crois qu'Emmanuel Macron a pris une très bonne initiative en associant l'Arabie Saoudite dans cette logique, qui est la logique française traditionnelle, à la reconnaissance de deux États. Bon, évidemment, la France reconnaît Israël depuis longtemps et elle s'apprête sans doute, et je crois que c'est utile, à reconnaître l'État de Palestine, quand bien même il y a beaucoup à dire sur les frontières et aussi le gouvernement. Hein. Bon, tout ça, c'est une réponse aux atrocités du Hamas, hein, le 7 octobre et par la suite, les prises d'otages. Et aux crimes commis par le gouvernement Netanyahou dans la répression quand même à Gaza, qui est quand même absolument épouvantable.
Et puis, juste une petite parenthèse, enfin qui n'est pas une parenthèse d'ailleurs, Yves Bertoncini, mais puisque vous évoquez le 7 octobre, est-ce que ça ne risque pas d'être considéré par le Hamas notamment comme une forme de récompense suite au 7 octobre? C'est-à-dire, on reconnaît un État palestinien, ça prouve que la stratégie suivie par le Hamas était une bonne stratégie.
C'est possible. On peut faire de belles choses pour de mauvaises raisons. Et en tout cas, le Hamas, dont il faut souhaiter hein, qu'il quitte la bande de Gaza et qu'il soit chassé, et pourquoi pas par des électeurs un jour, hein, parce que c'est aussi un des éléments du problème côté palestinien. L'absence d'élections, aussi bien d'ailleurs en Cisjordanie, le Fatah, Mahmoud Abbas, que le Hamas dans la bande de Gaza. Nous avons en Israël une démocratie, il faut quand même le reconnaître. C'est aussi pour ça qu'on a des liens avec ce pays. Mais ce pays, effectivement, et ses autorités redoutent ce qui pourrait arriver, alors que la partie reconnaissance de l'État d'Israël, y compris par l'Arabie Saoudite, la Syrie, enfin les voisins, serait un gain absolu pour ces pays. Et il faut qu'on soit attentif à ça. Israël a le droit d'exister et d'être en sécurité. Je crois que la France n'a jamais dit autre chose. Mais de l'autre côté, effectivement, dans ce contexte nouveau qui a été créé, la reconnaissance de l'État de Palestine serait un pas au moins symbolique. Ce qui fait que c'est un enjeu, parce que vous avez rappelé le chiffre de 148 États qui l'ont reconnu, c'est qu'en fait, il y a très peu d'États occidentaux qui ont reconnu l'État de Palestine. Au niveau de l'Union européenne, il y en a une petite douzaine, mais à l'intérieur, il y avait les pays de l'ex-bloc soviétique, hein, la Pologne, la Roumanie, qui avaient fait ça dès 88, mais dans le mouvement, je dirais, soviétique. Et puis seulement récemment, la Suède en 2014, vous avez cité l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se déclenche. Et l'un des enjeux de ce point de vue-là, de l'initiative d'Emmanuel Macron, sera de savoir combien d'autres pays européens il arrive aussi à entraîner au-delà de la France pour la reconnaissance de cet État de Palestine. Alors une fois qu'on aura fait ça, ben voilà, il faudra évidemment consolider ce qui pourrait être cet État de Palestine. Ses frontières, on va sans doute y revenir, et ses autorités gouvernementales. J'ajoute simplement que pour que quelque chose de productif advienne, il faudra aussi que les Israéliens retournent aux urnes. Soyons attentifs au fait qu'il y a aujourd'hui, dans la société civile israélienne, voilà, des opposants qui manifestent bruyamment, des représentants des services secrets, des militaires qui sont dans la rue en ce moment pour dire tout le mal qu'ils pensent du gouvernement d'extrême droite conduit par Benjamin Netanyahou. La solution, j'ai déjà dit qu'il faudrait des élections en Palestine, viendra sans doute parce que c'est une démocratie, de nouvelles élections et de la désignation de nouveaux dirigeants en Israël.
Est-ce que, François Jomène, justement, est-ce que ça n'est pas un mauvais moment pour reconnaître l'État de Palestine, le fait de constater, ben, alors, notamment dans la bande de Gaza, hein, ça fait quand même pas mal d'années qu'il n'y a plus d'élections. Est-ce que plutôt que de faire de la reconnaissance de l'État palestinien une forme de préalable, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt le penser comme l'aboutissement d'un processus ?
C'est toute la question, évidemment. Je pense que sur le principe, ça ne se discute guère. En réalité, les trois quarts des pays, on l'a rappelé, ont déjà reconnu l'existence de la Palestine en tant qu'État. Nous aurions dû le faire bien avant. Et sincèrement, c'est une honte que des pays comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou évidemment les États-Unis n'aient pas encore reconnu cet État palestinien. La difficulté maintenant, c'est est-ce qu'il faut le faire maintenant ? Est-ce que c'est un moment utile ou est-ce que ça va davantage compliquer la recherche de la paix dans la région ? Il y a des arguments, je crois, qui plaident d'un côté comme de l'autre. Il faut rappeler d'ailleurs les critères de Montevideo qui définissent comment est reconnu un État dans le droit international. Pour être reconnu dans le droit international, un pays doit disposer d'un territoire. Ce territoire doit être occupé de façon permanente par une population, il doit être doté d'une autorité politique, et cette autorité politique doit être reconnue par la communauté internationale, et alors le pays peut prétendre au statut d'État.
Ces critères-là, ils sont remplis aujourd'hui ?
Alors, on a aujourd'hui un pays dont le territoire est menacé par les plans d'annexion, par les plans de Riviera à Gaza, etc. Et donc la reconnaissance d'un État palestinien par la France pourrait contribuer à protéger le territoire contre ces velléités d'annexion. Sur la population, on voit bien aujourd'hui la tentative d'un nettoyage ethnique à Gaza. On voit bien les velléités de nettoyer complètement la bande de Gaza et d'en faire sortir les Palestiniens. Et là encore, il y aurait la possibilité sans doute de protéger la population contre les velléités de nettoyage ethnique. La difficulté, c'est évidemment la question de l'autorité politique. Aujourd'hui, qui détient cette autorité politique ? On voit bien que le Fatah est en position de faiblesse. On voit bien que c'est le Hamas qui a la main. Et d'une certaine manière, on craint que ce soit une sorte de cadeau qu'on ferait au Hamas et dont on légitimerait un peu l'autorité si on reconnaissait l'État palestinien. Et donc, c'est toute la difficulté qui est là. Faut-il protéger le territoire ? Et n'est-ce pas reconnaître aussi une certaine forme de légitimité au Hamas ? C'est une question qui est diplomatiquement très compliquée.
Et vous y répondriez comment, vous, alors, justement, François Germain, à cette question?
Il me semble qu'il y aurait une initiative quand même européenne intéressante à prendre. Et c'est là où ce dossier ne me paraît pas sans lien avec celui que nous venons d'évoquer, à savoir, quel est le rapport que nous pouvons prétendre avoir avec les pays du Sud si, en tant qu'Européens, nous ne reconnaissons pas la Palestine comme État? Et il me semble que dans un processus aussi de normalisation avec, pas seulement la Palestine, mais aussi les autres pays du Sud, il me semble que la reconnaissance de la Palestine pour être une étape là-dedans, on pourrait l'assortir néanmoins d'une condition qui soit la condition d'élection et de lancement d'un processus démocratique qui s'assurerait que le Hamas disparaisse définitivement de la scène politique palestinienne. Le problème, c'est que chaque bombardement israélien, évidemment, renforce le Hamas.
Thomas Gomard.
Oui, je pense que la grande difficulté, c'est aussi la situation sur le terrain, parce que il faut un territoire. Or, ce territoire, je pense à la Cisjordanie, est mité désormais par la colonisation, et Gaza est détruite. Michel Fouché, qui est un ancien ambassadeur et un géographe, a fait un article que je recommande à tout le monde dans la revue Politique étrangère, Israël-Palestine, quelle géographie, où il raconte une scène entre le cartographe palestinien qui présente les choses à Yasser Arafat sur la colonisation en Cisjordanie, dans un moment où précisément les frontières étaient très floues. Or, en réalité, on se rend compte que cette colonisation, j'ai pas le chiffre précis en tête, mais c'est de l'ordre de 750 000 colons israéliens en Cisjordanie, rend impossible le fait d'avoir une structure étatique durable dans la configuration actuelle. C'est-à-dire, une autre manière de le dire, c'est que si on envisage une situation à deux États en Cisjordanie, pour l'instant Gaza à part, ça impliquerait le départ des colons israéliens. Et donc, dans la configuration, et vu la pente illibérale prise par Israël, dirigée par Benjamin Netanyahu, ça semble être quand même une perspective, a fortiori après le 7 octobre et cette férocité de la réponse israélienne, ça semble être une perspective très peu, possible. Non. Donc je pense qu'il faut aussi garder ça en tête, c'est-à-dire que les Israéliens, a fortiori avec Benjamin Netanyahu, rendent impossible depuis plusieurs années la solution à deux États que les Européens ou la communauté internationale, pour ce qu'il en reste, rappellent à chaque occasion. La réalité géographique des choses rend cette perspective très très éloignée et renvoie effectivement une reconnaissance qui serait de nature uniquement symbolique. Alors, effectivement, on peut dire que c'est très important dans un rapport avec les pays du Sud, mais enfin, l'histoire européenne a aussi son importance dans l'existence d'Israël et la manière dont Israël s'est construite par rapport à l'histoire européenne. Donc, je pense aussi que là, il faut arriver à trouver probablement le bon équilibre entre ce qui relève de la construction d'Israël, de son droit à la légitime défense qui a été reconnu par un certain nombre de pays européens juste après le 7 octobre, d'un effort vis-à-vis des pays du Sud. Je pense que ça peut pas être l'un ou l'autre, mais ça doit rester l'un et l'autre.
Mais le bon équilibre, ça veut dire quoi? Ça suppose de différer justement cette reconnaissance?
Ça suppose de l'utiliser au bon moment pour faire changer le cours de la politique israélienne. C'est ça, à mon avis. C'est probablement ça que se dit le président de la République. C'est à partir de quel moment ça peut avoir un effet sur les positions de Benjamin Netanyahu. Je ne suis pas certain que les conditions soient réunies actuellement.
Yves Bertoncini?
Oui, je crois que c'est l'élément clé, hein. C'est-à-dire que le gouvernement israélien, de la même façon que le gouvernement des Palestiniens, si ses dirigeants n'ont pas la sagesse de Cincinnatus qui est retourné à sa charrue, comme Sharon l'a fait jadis d'ailleurs, hein, ou du pape Célestin qui a abdiqué, qui est reparti dans son château, enfin dans un château, et bien il faudra que les élections y pourvoient. Et encore une fois, là, Israël a un atout. Il y aura des élections à un moment ou à un autre en Israël. Les Israéliens devront choisir leur destin, qui ils veulent pour les diriger. Et on en prendra acte, ça sera un verdict démocratique, mais c'est clair que ça serait plus simple si le gouvernement de Benjamin Netanyahou tombait et qu'il était remplacé par des hommes de meilleure volonté, y compris après que l'émotion des atrocités commises par le Hamas se soit un tout petit peu dissipée, y compris en ayant obtenu le retour de tous les otages, voilà. Et côté, des côtés palestiniens. Ce qu'on peut noter, ça date d'hier, c'est tout frais, hein, c'est que Mahmoud Abbas, qui est là depuis 20 ans hein, quand même, sans élection non plus, a pris la décision de nommer un vice-président, donc Hussein Al-Sheikh. Et donc ça, c'est pas mal, parce que ça pourrait préfigurer une succession possible. Il va falloir des hommes neufs ou des femmes neuves pour inventer un avenir commun. Alors après, deuxièmement, une fois qu'on a dit ça, les gouvernements, hein, un État, c'est un gouvernement sur un peuple et un territoire, François Gemène l'avait rappelé. Dans quel territoire, quelle frontière? Bah oui, je suis bien d'accord avec ce qu'a dit Thomas Gomard, la logique de colonisation des Israéliens, dans une logique en plus de séparation, hein, c'est-à-dire que les territoires, les nouvelles colonies sont connectées à Israël, mais isolées du reste de la Palestine, avec plein de checkpoints, de murs, etc. Bah oui, il faudra faire avec ça. Il faudra quand même, et ça aussi, je crois que les Israéliens doivent en être conscients. On parlait de colonisation avant, hein, pour ce qui est de la France. Il va devoir y avoir des plans de désengagement, quoi, des retraits. Il y en a eu, hein. Ariel Sharon, simplement, il avait une forte légitimité au moment où il a essayé de conclure, c'était dans le prolongement des accords d'Oslo, Yitzhak Rabin et tout ce qui s'en est suivi, hein. Hommage à Rabin au passage. Eh bien, il y a eu des retraits. Il y a des colonies qui vont devoir être détruites, il faut le dire. Parce qu'elles étaient mal placées, elles étaient illégitimes, et elles rendraient trop difficile la viabilité d'un État palestinien. Et pour le reste, eh ben, il y a des colonies qui resteront, très probablement. Il faudra une négociation pour savoir lesquelles. Et il faudra essayer de faire en sorte, s'il y a une volonté de paix des deux côtés, une reconnaissance réciproque de l'existence de l'État voisin, eh bien, essayer de faire en sorte que tout ça se passe dans l'harmonie la plus grande possible. Il y a quand même plus, je termine là-dessus, de liens qu'on ne le croit, hein, entre la Palestine et Israël au quotidien. Hein, il y a des liens économiques notamment. Donc il y a quand même un socle sur lequel, malgré tous les outrages commis, on doit pouvoir bâtir quelque chose.
Avec peut-être le risque, Anne-Lorraine Bujon, que ces initiatives diplomatiques figent la situation politique côté israélien et côté palestinien. Alors qu'on voit bien que c'est si la donne politique change de ces deux côtés que ça peut avancer aussi.
Oui, alors moi je suis un peu saisie de vertige là quand je nous entends discuter de ce qu'il faudrait faire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, parce que il faut quand même aussi dire qu'on est dans une situation de très très grande urgence, et où même la question, donc on a dit et on a eu raison de le dire, que il ne pouvait pas y avoir de solution uniquement sécuritaire ou militaire à ce conflit et qu'il fallait chercher des solutions politiques, mais là il me semble que l'urgence humanitaire prend le pas sur tout. Si on n'agit pas maintenant, on continue de demander des cessez-le-feu immédiats, la reprise de l'acheminement de l'aide humanitaire immédiatement, ça n'est suivi d'absolument aucun effet. Donc, je dis, demander cette solution à 2 États maintenant, et même si ça semble lunaire et complètement déconnecté, c'est beaucoup mieux que ne faire rien du tout, parce que là, si on attend encore, dans 3 mois, dans 6 mois, il ne restera plus de Palestiniens vivant et en bonne santé à Gaza, et la Cisjordanie sera définitivement annexée. Donc moi je suis quand même, il y a ce sentiment de très très grande urgence. Est-ce qu'il faut demander une solution à 2 États, même si c'est prêcher dans le désert, pour obtenir autre chose, une solution à 1 État, mais que quelque chose bouge, que les lignes bougent? On ne peut pas rester là à observer ce qui est en train de se passer, qui est au-delà du dramatique.
François Gemène, pour conclure sur cette question, au regard de l'urgence humanitaire, ça paraît lunaire justement d'envisager cette question de la reconnaissance palestinienne et de la solution à 2 États, ou bien au contraire, ça la rend d'autant plus nécessaire?
C'est vrai qu'on a un peu l'impression ici de tirer des plans sur la comète, alors qu'il y a une sorte d'apathie généralisée, il faut le dire, et d'une certaine forme de normalisation un peu médiatique et politique de ce qui est en cours à Gaza. Chaque bombardement russe sur Kiev provoque effectivement des réactions internationales, et à juste titre, et c'est comme ça que ça doit être. Ce n'est pas du tout le cas sur ce qui se passe à Gaza, et on a l'impression qu'on s'est finalement un peu habitué. Il y a vraiment une situation de 2 poids, 2 mesures qui est tout à fait frappante. Encore récemment, à l'enterrement du pape, on a vu Donald Trump qui rencontrait Volodymyr Zelensky, qui relançait les espoirs de paix dans la région. Sur la question de Gaza, tout est bloqué. Et donc, on pensera ce qu'on veut de cette initiative de reconnaissance d'un État palestinien. Au moins, il y a la volonté d'essayer de faire quelque chose et de faire bouger quelques lignes. Et on ne voit plus très bien aujourd'hui ce qui permettrait de faire bouger les lignes. Et effectivement, on le rappelait à l'instant, il y a une urgence humanitaire absolue, il y a un besoin absolu de réaction de la part de l'Union européenne. Il faut absolument sortir de cette apathie. Et donc, j'ai tendance à dire qu'il faut un peu tout essayer.
Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Merci François Jemaine, Anne-Lorraine Bujon, Yves Bertoncini et Thomas Gomard. Émission préparée cette semaine par Anne-Claire Bazin et Léa Varin, réalisée par Luc Jean Reynaud, avec à la prise de son François Saint-Jour. On se retrouve dimanche prochain. Bonne semaine.